Bonsoir Tristan. Alors, dans le rêve, je suis étudiant à l'université d'Orsay et je quitte l'université en compagnie d'une jeune femme aux côtés de laquelle je marche pendant quelque temps et puis nous nous séparons. Elle part à droite et je pars à gauche sur une grande avenue, un grand boulevard. La seconde séquence, je suis sur cette même grande avenue et je suis perdu. Je pense être quelque part dans Paris. Donc la faculté d'Orsay, l'université d'Orsay se trouve, comme son nom l'indique, à Orsay, donc dans la banlieue sud de Paris. Là, je suis sur le boulevard où nous nous sommes séparés dans la séquence précédente avec la jeune femme qui m'accompagnait. Et je suis perdu, je demande à quelqu'un dans la rue s'il peut m'indiquer la direction de la place d'Italie. On me désigne sur la droite de la rue, donc le côté droit de la rue, et quand je regarde dans cette direction, dans la direction qu'on m'indique, je vois un grand bâtiment qui ressemble un peu à la gare Terminus de Milan, donc une construction très, on va dire, très mussolinienne, donc très austère. Et là, je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas vers la place d'Italie que je dois me rendre, mais vers la porte d'Ivry. Alors tout ceci est très incohérent, puisque l'université d'Orsay ne se trouve pas par là-bas. Et donc je continue en direction de la porte d'Ivry, et puis je me rends compte que je n'ai pas de papier, que je n'ai pas d'argent, et que je suis même complètement dépourvu de toute faculté, de toute facilité de paiement, et en plus je me rends compte que je suis en short et que je marche donc dans la rue, dans une rue assez moche d'ailleurs, qui ressemble pas vraiment aux rues qu'on trouve dans ce coin de Paris, dans le 13e en l'occurrence. Et donc je décide de retourner vers l'université d'Orsay parce que je pense avoir égaré ma sacoche dans laquelle je range mes papiers et mes moyens de paiement. Et je me réveille.
Ben vous perdez tout, Laurent.
Ah oui, là, je...
La compagnie, le sens de l'orientation et votre pouvoir d'achat.
Voilà.
C'est un rêve quand même un peu angoissant.
Oui, alors, c'est assez amusant parce que, en me réveillant, donc j'ai fait ce rêve la nuit passée, hein. En me réveillant, il ne se passe rien dans le rêve qui soit particulièrement terrifiant, et pourtant j'avais vraiment un sentiment comme une boule dans la gorge, un sentiment d'angoisse. Oui.
Alors, rappelez-moi, là vous le disiez dans le rêve, mais je ne vois pas où est située l'université d'Orsay.
Alors elle est au sud, au sud-ouest de Paris. Donc elle se trouve à Orsay. Orsay, c'est sur la ligne de RER qui va jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses, le RER B.
D'accord, donc c'est en banlieue.
Absolument, oui, c'est à une vingtaine de kilomètres de Paris.
C'est dans la ville d'Orsay.
Absolument.
D'accord, donc ça n'a rien à voir avec la gare d'Orsay, avec... Enfin si, c'était la direction, mais c'est pas sur le quai d'Orsay.
Absolument.
Ok, donc effectivement, c'est au sud. C'est quand même, quand vous êtes dans Paris, la porte d'Italie, c'est le sud. Et Ivry, c'est le sud aussi.
Absolument, je suis dans la bonne direction.
Voilà, donc c'est pas tant, vous n'avez pas tant perdu le sens de l'orientation.
Alors, non, pas tant que ça, et j'ai omis un détail, je suis confus de l'avoir omis, mais au tout début du rêve, j'ai l'impression, quand je quitte l'université d'Orsay, d'aller vers la gare du Nord. Comme si je n'avais pas perdu le Nord, vous voyez.
Et quand vous quittez l'université d'Orsay, donc pour remonter vers Paris, le Nord, c'est de la bonne direction aussi.
Exactement.
Voilà, donc nous sommes rassurés, il y a une bonne orientation, une intuition, je dirais, donc vous avez une boussole dans la tête, par contre les noms, effectivement, c'est assez incompréhensible, c'est pas la peine forcément de passer par la porte d'Italie, ou la place d'Italie ou porte d'Italie?
Alors, au début, je demande la place d'Italie, et je me rends compte que je dois aller vers la porte d'Ivry, alors je me suis lancé dans tout un tas de tentatives d'interprétation d'Ivry, d'Ivresse, de n'importe quoi, mais de manière complètement inféconde.
D'Ivray.
Ah oui. C'est plus intéressant.
Et donc, qui n'a pas dit le vrai? Qui vous a désorienté à ce point? Est-ce que par hasard, il y aurait une absence du père et une prépondérance de la mère?
Oui, absolument.
Voilà, donc là, excusez-moi, c'est pas de la divination, c'est la configuration très fréquente actuelle, hein. Et puis, on peut imaginer, d'après la perte de la relation avec le féminin, que la mère a pu empêcher cette relation avec le féminin.
L'empêcher de
Ben,
quelle
dans
manière?
votre orientation sexuelle, par exemple.
Oui, alors ça ne s'est pas produit, mais ça aurait très bien pu être le cas.
Vous avez eu chaud?
Non, j'ai pas eu chaud, mais je pense qu'on m'a. Il s'agit d'ailleurs, finalement, ça n'aurait pas été.
Oui, puisque effectivement, c'était un autre choix.
Voilà, exactement. Mais je n'ai pas fait ce choix-là. Voilà, effectivement. Mais oui, je pense que j'étais un peu chétif. Hein, j'étais assez malin, j'étais assez fragile. En plus, j'avais un gros problème de vision. Donc voilà.
Problème qui s'est résolu?
Non, non, pas du tout.
D'accord, donc ça pourrait être l'importance aussi du vrai, c'est-à-dire que le sens visuel étant atténué, vous avez besoin d'orientation, de repères très très forts, très stables. Et donc là, c'est une demande que vous auriez qui n'aurait pas été complètement entendue et qui fait que par moment, vous êtes un peu désorienté. Alors, à la fac d'Orsay, on y apprend quoi? Vous y appreniez quoi?
Des mathématiques, j'ai fait un doctorat de mathématiques.
D'accord, donc couronné de succès.
Ah oui, heureusement.
Très très bien.
Je précise, vous disiez un handicap, je suis né aveugle.
Ah oui, donc c'est plus qu'un défi, une déficience.
Oui, alors j'ai récupéré un petit peu de vision par tout un tas de mécanismes compliqués, mais effectivement, je vois pas grand-chose.
D'accord, donc vous voyez les lumières, les couleurs.
Oui, non, pas de couleur, je suis achromatopsique, mais effectivement une perception donc chromatique nulle, mais une perception de ton, de luminosité, et puis j'arrive à lire, si je. La preuve, je suis parvenu à faire des études de mathématiques, donc sans voir au tableau, bien entendu.
D'accord, mais quand c'est assez près, vous arrivez à déchiffrer.
Voilà, quand c'est assez près, ou en utilisant des outils optiques, de correction optique, ou une simple loupe électronique aujourd'hui,
D'accord, donc
convergente à l'époque.
sans fatigue.
Ceci avec une grosse fatigue, bien sûr, qui est épileptogène, enfin, etc.
Ouais, c'est ça le problème, c'est la surchauffe des organes, oui, c'est.
Exactement. Moi, j'ai de la chance, j'ai un cerveau qui fonctionne quand même pas mal.
A priori, oui, puis une structure dans le langage, une bonne cohérence, hein. Oui. Et donc c'est peut-être cet aspect un peu parfait qui a pu me faire penser aussi à l'orientation différente. Une qualité de narration impeccable. Mais donc, il y avait aussi la désorientation et donc l'absence de repères à un moment donné. Les éléments père et mère ne sont pas notifiés ou alors ils sont dissimulés, mais je n'arrive pas à les voir. Si le sud est la recherche de chaleur, le nord, ça pourrait être un froid que vous avez ressenti aussi. Puisque là,
Tout
ça
à fait.
perdre le nord, mais lequel de vos deux parents aurait été le plus froid?
Bon, je pense qu'ils rivalisaient d'ingéniosité dans la froideur.
Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement les figures sont indistinctes.
Oui, je pense qu'ils formaient une cellule dont résolument j'étais exclu.
Oui.
Et cette exclusion, enfin, je m'y suis résolu assez rapidement, on va dire, dans la formation de ma petite personne. Mais tout en souffrant, bien entendu.
Et donc la dictature parentale pourrait être assimilée, pardon, à l'architecture mussolinienne.
Ah oui, parfaitement. Je n'avais pas vu celle-là, mais on y est tout à fait. Oui. Mon père était militaire. C'est un ancien militaire.
D'accord, oui.
Donc effectivement.
Mais en tout cas, donc vous rêvez en images.
Oui, je rêve en images. Je fais effectivement des rêves assez imagés. De même que, alors en ne voyant pas les couleurs, j'utilise parfois des couleurs dans mes rêves, alors que je synthétise purement intellectuellement sur la base soit de mes lectures, soit de ma compréhension chromatique de votre univers. Quand je dis votre, j'assimile les personnes qui voient les couleurs à la personne que vous êtes.
Oui, c'est ça, mais en tout cas, donc des variations de ton qui ne sont pas des nuances de gris.
Absolument.
Voilà, donc les couleurs, vous ne pourriez pas les nommer, mais elles existent réellement dans votre perception.
Exactement.
D'accord, donc là, il y a quand même aussi un processus qui est magnifique.
Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai une admiration incroyable pour le cerveau humain.
Et pour le vôtre.
C'est capable de réification, enfin de choses assez incroyables.
Et le vôtre aussi.
Le mien marche bien, oui.
Oui, voilà. Donc ça, c'est une donnée importante. Comment se termine le rêve?
Alors, je suis sur le trottoir de gauche. Je marche vers... Donc, si on mettait les numéros impairs dans Paris, je marche vers les numéros grandissants, donc croissants, dans le sens croissant des numéros. Je marche donc sur le trottoir de gauche.
Oui.
Et je me rends compte que je suis en simple short et que je n'ai donc aucun moyen de paiement, donc aucun moyen de rejoindre...
Ah oui, c'est ça, oui. Mais il y a donc, a priori, de la part de vos parents aussi une volonté d'emprise. Parce qu'en ne vous donnant pas les moyens d'être autonome complètement, ils vous rendent dépendant. Et donc, il y a donc un curieux calcul qui est fait de leur part. Ils n'arrivent pas à vous autonomiser, à vous transmettre. Donc, quelque chose qui est aussi de l'amour, et pour vous rendre dépendant.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'était une relation un petit peu comme un ressort, comme un yo-yo. Des choses assez complexes qui sont difficilement compréhensibles par un enfant.
Voilà, nous te rejetons, mais ne nous abandonne pas.
Exactement. Voire même, nous comptons... Je vous avais appelé il y a quelque temps, je vous avais raconté un rêve avec... Enfin bon, c'est un autre rêve, mais où on retrouvait cette même emprise.
Alors, le redressement que vous venez de faire est admirable, puisque la plupart des temps, les personnes sont fascinées par leurs rêves et tendent à les renarrer indéfiniment.
Ben non, ça n'a aucun intérêt. Non.
Oui, mais là, vous avez réussi à échapper à cette emprise hypnotique. Et donc là, il y a une puissance qui est vraiment à l'œuvre.
Mais ça, c'est grâce à votre aide, puisque vous m'avez sorti de ce rêve-là, le précédent.
Mais c'est aussi grâce à vous quand même, hein. Et j'ai trouvé le fait que vous résistiez à la tentation assez admirable.
D'accord. Alors, votre conclusion la dernière fois, c'est que j'étais très puissant vis-à-vis de mes parents.
Ben là encore, vous venez de le montrer avec cette tentation à laquelle vous n'avez pas succombé.
Alors je précise que ma mère est décédée il y a 2 ans. Et que mon père est toujours vivant, mais que je n'ai aucune relation avec lui.
Alors, il resterait quand même que vous avez ce sentiment de dépossession, puisque vous avez le sentiment de ne pas avoir de pouvoir par l'argent, donc suffisamment d'énergie, mais a priori si, et peut-être que le redressement que vous pourriez faire, c'est de prendre conscience que c'est votre père qui a besoin de vous et non pas le contraire. Mais là, c'est de l'ordre du besoin viscéral. C'est même peut-être pas conscient chez lui.
Ça reste compliqué, même si je le souhaitais. J'ai fait quelques tentatives d'approche après le décès de ma mère, qui n'ont absolument pas été couronnées de succès. En revanche, il a fait l'effort, à ma grande surprise, de prendre mon fils avec lui pendant quelques jours. Alors il a cherché, comme il le faisait du temps de mon enfance, à se valoriser, à se gargariser, enfin en tout cas à se valoriser auprès de lui, mais pourquoi pas pour m'atteindre. En tout cas, ça a bien fonctionné, mon fils est revenu enchanté du séjour qu'il a fait avec son grand-père, qui était le premier alors que mon fils a 10 ans.
Ah ben, tout peut arriver. Mais là donc, se gargariser, vous avez dit, c'est ça?
Oui, oui.
Il est probable que votre père doit s'attribuer beaucoup de valeur en narrant le fait que vous êtes docteur en maths.
Oui, d'autant qu'il n'était pas parvenu à ce niveau. Mais j'ai fait des maths parce qu'il était lui-même dans le domaine des sciences au CEA.
Voilà, mais donc il est... Ah oui. Donc il est probable qu'il soit extrêmement fier de vous et qu'il en parle assez souvent.
Il parle de lui assez souvent.
Oui, mais de façon indirecte, en parlant de vous, c'est de parler de lui.
Oui.
Mais il est probable que vous soyez l'objet de sa fierté, qu'il en parle beaucoup plus souvent qu'il ne vous le dit.
Alors c'est possible, d'autant que l'unique complicité que nous fussions parvenus à créer, à la fois dans mon enfance et même plus tard, est une complicité scientifique, on va dire plutôt du François de Clauset des sciences, c'est-à-dire de la vulgarisation scientifique, qui est presque là pour amuser la galerie d'ailleurs, mais qui est néanmoins, nous trouvons un terrain d'entente et une forme de complicité sans aucun risque, voyez. Si ce n'est sur la valeur des théories que nous commentons.
Voilà, et donc pour conclure, ce serait le mot valeur. Il vous manque une valeur financière dans le rêve, parce que vous n'avez pas encore le sentiment de votre valeur, mais si vous prenez conscience que vous êtes un objet de légitime fierté et de valeur pour votre père, il y a quelque chose qui peut se transformer. Votre énergie vous appartient.
Oui.
Et donc dans le rêve, quand vous n'avez pas accès à celle-ci, c'est que vous avez encore un sentiment de dépossession, mais justement, est-ce que vous n'êtes pas un objet dont votre père peut se servir aussi pour se valoriser ?
Je vous remercie infiniment pour ces éclaircissements. C'est très très pertinent.
Voilà, donc je suis obligé de conclure parce que l'heure était passée.
Oui, bien sûr.
Il y a certainement d'autres choses à dire, mais là c'est déjà, vous avez de quoi méditer.
Enfin, j'espère en tout cas. Tristan.